RFI, il est 22h à Paris, 21h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
Et à la une de ce dimanche 19 janvier, premier jour de cessez-le-feu à Gaza. Après 15 mois de guerre et près de 47 000 morts d'après les chiffres du Hamas, trois otages israéliennes ont été libérées. Elles sont arrivées cet après-midi sur le sol israélien. En parallèle, les camions humanitaires ont pu revenir sur le territoire palestinien. Des milliers de déplacés reprennent déjà le chemin du retour. Mais quel sera l'avenir de la bande de Gaza? On en parle dans cette édition. À la une de l'actualité également, J-1, avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, 600 invités attendus au Capitole, une investiture très suivie, notamment au Texas. Reportage dans le sud de cet État américain, dans ce journal. Et puis à l'occasion de son investiture, le groupe Village People sera présent, une participation loin de faire l'unanimité, vous l'entendrez.
RFI.
Après 15 mois de guerre, le cessez-le-feu est entré en vigueur à Gaza ce matin. Trois otages ont été libérés par le Hamas. Elles sont arrivées en Israël dans l'après-midi. L'accord prévoit aussi la libération de très nombreux Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes. À Jérusalem, Sami Bourelifa revient sur l'identité de ces trois femmes israéliennes libérées par le Hamas.
Romy Gonen, 23 ans, Émilie Damari, 27 ans et Doron Steinbrecher, 30 ans. Toutes trois sont des civils. Romy Gonen, la plus jeune, a été blessée le 7 octobre 2023 lors de l'attaque du Hamas contre Israël. Romy a reçu ce jour-là une balle dans la main. Elle était au téléphone avec sa mère quand elle a été capturée. Ils m'ont tiré dessus, maman et je saigne. Tout le monde dans la voiture saigne, avait confié la jeune fille en état de choc et paniquée avant d'être emmenée de force à Gaza. En novembre 2023, lors du premier accord de trêve entre Israël et le Hamas, un otage libéré avait expliqué qu'elle était en vie mais en mauvaise santé. Émilie Damari, 27 ans, israélo-britannique, elle aussi blessée par balles et par des éclats d'obus le 7 octobre 2023, enlevée dans son appartement de Kfar Aza, un kibboutz frontalier de la bande de Gaza, emmenée à l'arrière de sa propre voiture, les yeux bandés. Doron Steinbrecher, 30 ans, de Kfar Aza également. Dernier signe de vie, un texto envoyé à ses proches pour dire qu'elle se fait kidnapper. Sami Bourkhifa, Jérusalem, RFI.
Et 15 minutes après le début du cessez-le-feu qui a débuté ce matin à Gaza, les camions humanitaires ont pu rentrer dans le territoire palestinien en passant par le poste frontière de Rafah. En parallèle, des milliers de déplacés palestiniens prennent déjà le chemin du retour. Mais la question de la gouvernance de la bande de Gaza reste en suspens, tout comme la création d'un État palestinien. Guillaume Ancel, ancien militaire, auteur du blog Ne pas subir et du livre Saint-Cyr, l'école de la Grande Muette, était notre invité ce midi.
Dans les circonstances, il n'est pas imaginable que le Hamas reste au pouvoir à Gaza. C'est eux qui ont déclenché l'attaque terroriste du 7 octobre contre Israël, qui a été le détonateur de cette guerre. Et par conséquent, pour moi, ils ont perdu toute crédibilité à pouvoir gouverner un territoire. Non, la question qui se pose maintenant, c'est au-delà de Gaza, c'est aussi la Cisjordanie. Mmh, et bien sûr, occupé. C'est de pouvoir enfin former un État palestinien qui puisse discuter avec l'État israélien, sans être uniquement dans le désir de revanche. Mais ça concerne aussi Benjamin Netanyahou. Je ne le crois pas capable de pouvoir construire positivement quelque chose avec les Palestiniens. Et ce sera aux Israéliens de décider maintenant qui ils veulent au pouvoir pour construire une paix durable, ce que ne sait pas faire Benjamin Netanyahou.
Guillaume Ancel, ancien militaire, auteur du blog Ne pas subir et du livre Saint-Cyr, l'école de la Grande Muette. Il était notre invité ce midi. Il répondait à Charlotte Hydrac. Et en Israël, il y a des répercussions politiques après cette trêve à Gaza. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et d'autres membres de leur formation alliés au Premier ministre Benjamin Netanyahou ont déclaré avoir rendu leur démission ce dimanche. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a également menacé de quitter le gouvernement de coalition si Israël mettait fin à la guerre contre le Hamas à Gaza. Pour rappel, Smotrich dirige le Parti national religieux, une formation d'extrême droite faisant également partie du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et parmi les réactions internationales depuis la mise en vigueur de cette trêve à Gaza, le pape François a appelé au respect immédiat du cessez-le-feu. Le Premier ministre britannique Keir Starmer salue une nouvelle fantastique après des mois de supplice. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a appelé ce dimanche à s'engager en faveur d'un État palestinien coexistant en paix avec l'État d'Israël. Le président américain sortant, Joe Biden, s'est lui félicité que le Proche-Orient soit une région profondément transformée grâce à l'accord de trêve et à la libération des otages. Ce lundi 20 janvier ouvrira une nouvelle page de l'histoire des États-Unis. Donald Trump sera officiellement investi. Il a déclaré qu'il signerait un nombre record de décrets présidentiels immédiatement après sa prestation de serment au Capitole de Washington. Son investiture sera particulièrement suivie dans le sud du Texas, notamment dans le comté de Starr. Ce bastion démocrate a pour la première fois en plus de 100 ans voté pour un candidat présidentiel républicain. Alors quelles sont les attentes envers le nouveau président? Reportage à Rio Grande City avec notre envoyé spécial aux États-Unis, Harim Lippold.
Benito et Tony Trevino sont des figures bien connues ici à Rio Grande City. Benito a dirigé la section locale des Républicains avant de passer le flambeau à son épouse Tony. C'est au Texas Café, une institution de cette petite ville frontalière avec le Mexique, que nous les rencontrons. De la nouvelle présidence de Donald Trump, Benito, lui, espère surtout des retombées économiques pour la région.
J'espère qu'on relancera l'industrie du gaz et du pétrole pour permettre au pays de devenir autonome en énergie. Et ça pourrait aussi aider mes neveux, mes cousins, mes tantes et mes oncles à retrouver du travail. Sous la première administration de Trump, ils travaillaient dans divers secteurs comme camionneurs par exemple. Il faut booster l'économie, créer des emplois, réduire les prix et fermer la frontière.
Une politique migratoire plus stricte, c'est aussi ce que réclame Tony, son épouse.
Le message qu'on enverra aux gens, c'est que la frontière est fermée. Et si vous entrez illégalement, vous serez confronté à un processus administratif et rapidement expulsé.
Les deux responsables républicains saluent les choix de Donald Trump pour constituer son équipe, convaincue qu'il aura les coudées franches pour appliquer son programme.
Countdown to Inauguration Day in style and celebrate the first 100 days of a brighter, bolder America.
Et alors, que prévoit-il pour le jour de l'inauguration? Une bouteille de champagne?
Oh non, je ne pense pas. Vous savez, on travaille. Ce sera une journée normale, mais nous serons heureux, c'est sûr.
Harim Lippold, Rio Grande City, RFI.
Et alors que Donald Trump s'apprête donc à revenir à la Maison-Blanche, son investiture prévue demain a été déplacée à l'intérieur du Capitole, avec 600 places pour accueillir les représentants et dirigeants étrangers qui ont été invités. Des personnalités ont également payé pour participer. Le comité d'investiture du président élu a reçu 170 millions de dollars pour sa prestation de serment, et c'est un record. Et à l'occasion de cette investiture, un air de disco va souffler, avec comme invité surprise le groupe Village People. Cette formation emblématique des années 70 s'est surtout fait connaître grâce au tube YMCA, chanson devenue un passage incontournable des meetings de Donald Trump. Or, la participation des Village People à la cérémonie ce lundi est loin de faire l'unanimité, Edmond Sadaka.
Pour le fondateur des Village People, Victor Willis, la musique doit vivre sans considération politique. Cette réflexion, il l'a partagée cette semaine sur ses réseaux sociaux et elle constitue un revirement à 180 degrés de la part du seul membre restant de la formation originale. Car il y a peu de temps, c'est ce même Victor Willis qui s'agaçait publiquement de voir Donald Trump s'approprier YMCA dans ses meetings et exécuter quelques pas de danse sur cette musique. Aujourd'hui, le groupe disco ne trouve donc plus rien à redire face à cette réappropriation. Il est loin d'être le seul, d'ailleurs, à se rapprocher du président élu dans le sillage d'autres personnalités publiques, comme tout récemment le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, ou encore avant lui le milliardaire Elon Musk. Mais dans le cas des Village People, leur présence à la cérémonie d'investiture est d'autant plus surprenante que la formation est considérée depuis toujours comme un porte-étendard de la communauté homosexuelle. On est donc à des années-lumière de la politique anti-LGBT prônée par le futur chef de la Maison-Blanche.
Edmond Sadaka. Le réseau social TikTok était inaccessible aux États-Unis aujourd'hui, suite à la loi votée au Congrès en 2024, entrée en vigueur ce dimanche. Et le réseau social a finalement été rétabli après des déclarations de Donald Trump. Le texte de loi prévoit la possibilité pour le chef de l'État de repousser la mise en œuvre de 90 jours, le temps de trouver un acheteur, une alternative offerte à la maison mère de TikTok en lieu et place de l'interdiction. Sur ce point, Donald Trump a annoncé qu'il allait suspendre donc la loi sur TikTok ce lundi et proposer un actionnariat américain à 50%.